avez déjà vu, comme moi, un enfant d'à peine quelques années toucher un clavier ou un écran? C'est assez fascinant. Comment il positionne ses doigts naturellement, comment il manie une tablette, un téléphone ou toute autre nouvelle technologie, comment il comprend tout beaucoup plus vite que vous, intuitivement. Alors vous allez me dire que c'est là toute l'intelligence de ceux qui fabriquent ces nouveaux outils, mais peut-être que pas seulement. On sait que nos comportements et nos pratiques culturelles, tout ce qui est lié à nos modes de vie, ont une influence sur notre évolution. Si ça se trouve, il y a quelque chose qui nous échappe, qui se développe en nous. De la même manière qu'à partir de l'apparition de l'élevage et de la consommation de lait, il y a 5000 ans, on a développé une enzyme qui nous permet de digérer le lactose, par exemple. On peut imaginer une évolution du corps liée à la vie future. Imaginez des doigts plus longs et plus flexibles qui puissent s'étirer davantage, des yeux plus grands adaptés à nos écrans, et puis d'autres mutations invisibles qui nous permettent de nous adapter à d'autres conditions de vie. À force de rendre les machines de plus en plus performantes et de plus en plus petites, de plus en plus difficiles à voir, qui vous dit qu'à un moment elles ne feront pas partie de nous? Qui vous dit qu'on ne les aura pas intégrées au corps humain? Vous, quand vous pensez au corps de demain, qu'est-ce qui vous vient?
Boomerang à Cannes.
Tu n'as pas été au cinéma? Bah, non chérie, on est à Cannes, j'ai pas le temps quand même.
Augustin Trapenard sur France Inter.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui s'intéresse depuis toujours au corps humain et à ses mutations possibles. Souvenez-vous de Frissons ou de Rage réalisés dans les années 70, de La Mouche, d'Existence ou de Crash qui lui valait un prix spécial du jury ici même il y a 26 ans. Son nouveau film Les Crimes du Futur est présenté demain à Cannes, est en lice pour la Palme d'Or et sort en salle en même temps. C'est une œuvre fascinante qui interroge l'évolution et la mémoire, l'humanité en nous, portée par Viggo Mortensen, Kristen Stewart et Léa Seydoux. Bonjour, David Cronenberg.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là. Au fond, que devient notre corps?
Lorsque j'ai écrit ce scénario il y a 20 ans, personne ne parlait des microparticules de plastique. Et aujourd'hui, chaque semaine, il y a un nouvel article sur le fait que les microparticules infiltrées dans nos océans, à cause de la désintégration des plastiques que nous utilisons pour tout, pour les sacs, pour les bouteilles, ne se décomposent pas, mais deviennent des microparticules, de très très petites particules que les poissons avalent. Nous, on mange les poissons et donc, dans nos corps, nous avons apparemment des microparticules de plastique dans notre sang et nous les avons aussi dans notre chair. Donc nos corps, avant même d'en être conscients, s'adaptent à une nouvelle chimie, une nouvelle biochimie due à la pollution de la Terre, de notre fait.
Mais alors si le corps ne cesse d'évoluer, quel avenir est-ce que vous lui voyez ?
C'est une chose très mystérieuse, n'est-ce pas? Parce que l'évolution n'est pas très prévisible. Ce n'est pas la façon dont je pense que la plupart des gens comprennent Darwin. C'est très aléatoire. Il n'y a pas de plan défini. Il y avait une approche philosophique de l'évolution lorsque l'évolution a été acceptée comme un fait, selon laquelle nous évoluions pour devenir supérieurs, que nous nous améliorions. Nous devrions semblables aux anges. Nous étions des animaux, maintenant nous sommes des humains, bientôt nous serons des anges. Parfois, les croyants le prenaient au pied de la lettre. Mais en fait, selon Darwin et selon la théorie moderne de l'évolution, nous n'évoluons pas nécessairement en mieux, nous changeons.
Alors dans Les Crimes du Futur, vous posez une hypothèse, David Cronenberg, qui est celle que le corps humain pourrait se mettre à générer de nouveaux organes. Quel genre d'organes?
L'idée pourrait être que, peut-être, nous sommes en train de générer un organe qui nous permettra de communiquer par télépathie, par exemple, ça pourrait être ça. Mais d'autre part, nous pourrions faire évoluer tout un système digestif qui nous permettrait d'absorber, de décomposer les plastiques et de les utiliser comme nourriture. En d'autres termes, on serait capable de manger du plastique, le digérer. Ça pourrait devenir une source de protéines. La vérité, c'est que nous avons maintenant découvert qu'il y a des bactéries qui peuvent manger du plastique, qui peuvent utiliser le plastique pour générer de l'énergie, l'absorber. Les bactéries sont juste des petits animaux, vous savez. Et nous, on est constitués de cellules. Les bactéries sont des animaux unicellulaires. Si elles peuvent le faire, nous pourrions le faire aussi.
En fait, la question que vous posez à travers cette mutation du corps, c'est à la fois celle de l'avenir de notre espèce, mais aussi de ce qui nous définit en tant qu'être humain. David Cronenberg, au fond, qu'est-ce qui fait que l'on reste humain pour vous?
L'un des postulats de mon film, c'est que notre définition de l'humain doit changer. parce que nos corps changent. Et tout comme il y a ce leitmotiv dans mon film, le corps est la réalité. Si votre corps change, alors votre réalité change. Et ça signifie, si vous êtes un humain, c'est que ce qu'est un humain change aussi. La définition de ce qu'est un humain est en train de changer. C'est peut-être pas pour le mieux.
Mais il reste quand même certaines choses. Il reste, par exemple, notre capacité à imaginer, à inventer, à créer aussi.
Tout à fait. Je pense en fait que de nombreux animaux ont aussi la capacité d'être créatifs. Mais nous, nous sommes les seuls qui en soient conscients. Nous sommes conscients de notre créativité. Il est possible que la nature de notre créativité change ou que nous perdions la capacité d'être créatifs. C'est aussi, ça pourrait être une évolution dans un sens négatif, mais ça pourrait arriver.
Alors c'est là où votre film devient absolument passionnant, c'est quand il propose une réflexion sur la création artistique. Le corps d'un de vos personnages met au monde de nouveaux organes qui sont ensuite retirés, exposés et considérés comme des œuvres d'art. Au fond, une des questions que vous posez, c'est qu'est-ce que c'est une œuvre d'art ?
You might be aware
vous savez peut-être que j'ai proposé un NFT. C'est un jeton non fongible de mes calculs rénaux. Vous êtes au courant?
J'adore.
Okay. So, because, and this is very
parce que
close to the character
c'est très très proche du personnage joué par Viggo Mortensen dans le film. Il offre ses organes internes pour qu'ils soient prélevés et présentés comme des objets d'art que quelqu'un pourrait peut-être exposer ou acheter. Et il m'est apparu, lorsque j'ai regardé ces calculs rénaux que j'ai produits pendant 2 ans, que ceci était vraiment très beau. Ils sont la création de l'intérieur de mon corps.
Se peut-il, David Cronenberg, qu'une œuvre d'art, ce soit tout simplement quelque chose qui grandit à l'intérieur de soi?
Oui, en fait, intellectuellement, métaphoriquement, et dans certains cas, littéralement, physiquement, moi je dis que ces calculs rénaux viennent de l'intérieur de mon corps, me présentant leur expression artistique, l'exprimant à l'extérieur de mon corps. Ils disent, voilà, on te montre ce que nous avons fait à l'intérieur de ton corps. Tu n'en étais pas conscient et maintenant on te le montre. Et je dis, si vous voulez les acheter, vous pouvez. Je les ai proposés à la vente. Jusqu'à présent, personne ne les a achetés. En gros, vous achetez un JPEG, vous savez, une photo de ces 18 calculs rénaux. Mais je dis, si quelqu'un veut acheter le NFT et qui veut vraiment les vrais calculs rénaux, je lui donnerai.
En l'occurrence, vous êtes cinéaste, David Cronenberg. Dans quelle mesure faire un film, c'est réaliser l'ablation d'un organe non répertorié qui se serait développé à l'intérieur de soi, à l'intérieur de son propre corps?
J'arrive pas à croire que tous les cinéastes qui font tous ces films le ressentent ainsi, parce que pour que ce soit vrai, il faudrait que ce soit quelque chose qui vous obsède, à laquelle vous avez pensé pendant des années, à laquelle vous n'avez pas pu résister, il fallait que vous fassiez ce film. Et c'est rare. La plupart, vous savez, la plupart des réalisateurs, c'est une industrie. Pour moi, je n'ai pas fait de film depuis 8 ans, donc c'est quelque chose qui signifie évidemment quelque chose pour moi, parce que je pensais que peut-être que je ne ferais jamais un autre film. Si c'était comme ça, ce n'est pas grave. Et ensuite, j'ai dû faire ce film. Donc c'est possible que ce film soit même une meilleure version de mes calculs rénaux.
Le corps, David Cronenberg, quel outil est-ce que c'est pour le cinéaste que vous êtes?
C'est presque un effort athlétique. Je veux dire que quand vous faites un film en tant que réalisateur, c'est très dur pour votre corps. Vous êtes soumis à un grand stress, vous utilisez tous vos sens, vous utilisez vos oreilles, vos yeux, votre odorat, tout, votre sens du toucher. Lorsque vous créez les scènes avec vos acteurs et que vous les filmez, lorsque vous trouvez les lieux de tournage, vraiment, j'ai dû réfléchir. Vous savez, j'ai 8 ans de plus que pour le film précédent, et je me suis vraiment demandé si j'aurais l'endurance, la concentration nécessaire. C'est très très dur pour le corps.
C'est une question que vous posez quand vous dites que le corps, c'est la réalité, c'est aussi notre perception du monde. En quoi diriez-vous qu'avec les années, votre perception du monde a changé avec votre corps? En quoi est-ce qu'on ne perçoit pas le monde de la même façon à 79 ans qu'à 30 ans? 30 ans.
Vous voulez dire que j'ai plus de 30 ans? On me ment. Je ne me regarde jamais dans le miroir, vous savez.
Oui.
C'est le genre de choses typiques auxquelles on s'attend. C'est-à-dire que je sens que je suis beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus intelligent, beaucoup plus compréhensif, beaucoup plus enclin à oublier, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Donc je sens qu'il y a eu un réel changement dans ma vie émotionnelle et ma vie intellectuelle. En faisant ce film, j'étais beaucoup plus en capacité d'absorber les changements, les choses qui n'allaient pas trop bien. Je suis moins en colère. On a un vrai sens de l'équilibre et une sorte de distance. C'est une distance chaleureuse, organique. C'est pas une distance froide. Mais on en est revenu du monde. Et c'est pas... En fait, c'est un endroit où il fait bon être quand on est un cinéaste.
Vous savez qu'il y en a une qui ne change pas. Et elle est dans cette émission, en l'occurrence, David, vous la connaissez, c'est La Culture. Et son actualité, Dorian Gray, sauvegarde et préservation. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, mardi 24 mai?
Bien sûr qu'ils m'ont raté. Soleil dans la bulle, sur le plateau, Shifter Pro. Contresens, ma chérie tient à contresens.
Ce Marseille bébé, ta mère en CDD, la cité phocéenne accueille dès aujourd'hui la 6e édition du très acidulé festival littéraire Oh les beaux jours. Réuni autour de 8 thématiques comme un monde à la dérive ou récit de silence, la manifestation reçoit une centaine d'auteurs pour des lectures, des concerts, des rencontres. On y attend notamment Christine Angot, André Courcoff, Patrick Chamoiseau, mais on pourra aussi y profiter des plumes de la jeune maison d'édition marseillaise Le Bruit du Monde, parmi lesquelles Alice Kaplan, Anna Berwoetz ou Christiane Astofli ou Dioui.
On part de la base, on sait ce qui s'est passé pour faire évoluer notre musique.
Faut pas que tout plus.
Le X-Wing, c'était lui, et l'étoile noire aussi, architecte, ingénieur, écrivain, l'américain Colin Cantwell est mort samedi, il avait 90 ans. Il était notamment le grand concepteur de certains des vaisseaux spatiaux et des effets spéciaux de la saga Star Wars de George Lucas. Son imagination et sa passion l'avaient aussi amené à travailler avec Kubrick sur 2001, l'Odyssée de l'espace, et avec Spielberg sur Rencontre du troisième titre. Il était enfin l'auteur de deux romans de science-fiction, titrés Corefires 1 et Corefires 2, So Long, Colin. Cotillon et paillettes à foison. L'événement aujourd'hui à Cannes, c'est la belle soirée d'anniversaire de la 75e édition du festival. Pour l'occasion, la Croisette met les petits plats dans les grands et organise dîner de gala et birthday party avec rouge tapis, photos de famille et parterre d'étoiles. Mais l'événement, ce sera aussi et surtout la projection de L'Innocent, la nouvelle réalisation de Louis Garrel, présentée hors compétition. Une comédie qui orchestre la rencontre amoureuse d'une sexagénaire avec un prisonnier sous l'œil méfiant de son fils, porté par Anouk Grimbert, Roche Dizem et Noémie Merlan, c'est grand. Le cinéaste canadien David Cronenberg, invité de Boomerang ce matin à Cannes pour Les Crimes du Futur, ce film qui sonne comme une somme de toute votre œuvre et dans lequel vous renouez avec la science-fiction. Pour le cinéaste que vous êtes, quelle liberté est-ce que ça permet, la science-fiction ?
J'ai toujours pensé que lorsque vous faites un film de genre, comme un film de science-fiction ou d'horreur, vous êtes peut-être limité par les attentes de votre public, qui attend certaines choses, mais vous êtes aussi protégé par le genre. Par exemple, quand j'ai fait La Mouche, je me suis dit, ce film, c'est juste trois personnes dans une pièce, c'est un très bel homme, une très belle femme, l'homme devient souffrant, il tombe malade, il commence à mourir, il se détériore et devient laid. Et la femme l'aide à mourir. C'est ça l'histoire. Et je me suis dit que si j'en avais fait simplement un drame, ça aurait été très déprimant, comme l'amour.
Amour de Michael Haneke qu'on embrasse.
Donc, mais parce que c'est de la science-fiction et qu'il comporte cette dynamique intéressante de la science-fiction, on peut raconter cette histoire. L'émotion est la même, mais d'une certaine manière, c'est plus acceptable, surtout par un jeune public, parce que il est un peu protégé de l'émotion. Donc je pense que la science-fiction vous donne l'occasion de jouer avec des choses et de dire des choses qui seraient indicibles en dehors du genre.
Ça veut dire qu'à partir de la contrainte du film de genre, vous pouvez plus expérimenter, en fait.
Oui, c'est dans la nature des choses. Ça vous libère vraiment. Si vous faites un film à ce qu'on appelle un film réaliste, un vrai drame, du réalisme social. Vous êtes limité, évidemment. Vous savez, c'est cette conversation que vous avez avec le public, c'est le contrat. Vous avez un contrat social avec votre public. Si c'est de la science-fiction, le contrat est différent. Il dit que vous pouvez aller très loin avec votre imagination. Vous pouvez être outrancier, vous pouvez être drôle, vous pouvez être satirique. Et le public s'y attend. Donc c'est toute une autre histoire.
En l'occurrence, il est question d'expérimentation dans les crimes du futur, puisque vos deux personnages principaux se livrent, on l'expliquait, à des performances d'avant-garde qui repoussent les limites de ce qui ressemble à une forme de body art. Repousser les limites d'un art comme le cinéma, ça passerait par quoi ?
Eh bien, pour faire ce film, dans un sens, comme vous le comprenez très bien, que le personnage de Viggo Mortensen dans le film est en quelque sorte mon avatar.
Évidemment, je vous pose la question parce que la dernière fois que je vous ai reçu à ce micro, il y a 6 ans, pour votre roman Consumé, vous sembliez dire que le cinéma s'était terminé, qu'il n'y aurait plus d'autres films. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous changiez d'avis ?
Est-ce que j'ai dit que je ne ferais absolument plus de films ou est-ce que j'ai dit, en gros, si je ne fais plus de films, ça ira bien quand même.
Non, vous avez été très ferme.
Très ferme,
Peut-être que j'aime jouer avec ça et voir comment ça sonne. Parce que je n'étais pas vraiment en train de baisser le rideau, fermer la porte. Je pensais vraiment, cependant, que ça m'a fait plaisir d'écrire un roman. Et c'était ce dont j'étais venu vous parler. Et je me suis dit que ce que je ferais ensuite serait très probablement d'écrire un autre roman. Et donc, je ne tirais pas un trait sur ma vie de créativité, mais je la déplaçais simplement. Parce que faire des films est très difficile. Le financement de ce film a pris 3 ans, juste pour l'argent. C'est très difficile de faire un film indépendant de nos jours, de le financer. Alors je me disais, c'est trop de complications. Puis on essaie de trouver un acteur, et l'acteur ne veut pas faire le film, et alors le financement disparaît, il faut trouver un autre acteur. Donc je me suis dit, trop de complications.
Et puis le cinéma, vous êtes le premier à le dire, très souvent a quelque chose à voir avec le désir, voire avec la libido, c'est le cas dans Les Crimes du Futur. Cela m'évoque aussi le film que vous aviez réalisé sur la psychanalyse, The Dangerous Method. Le désir, quelle force, quel moteur est-ce que c'est pour vous en tant que cinéaste ?
Il faut avoir le désir de faire le film. Je veux dire, c'est le premier objet. L'autre jour, j'ai regardé un film de Buñuel.
Cet obscur objet du désir.
Et j'ai pensé pendant un moment que ce film était l'obscur objet de mon désir. Parce que je sentais que ça allait être trop compliqué, trop difficile. Une des choses à dire pour en revenir à mon âge, l'un des avantages de l'âge, c'est que j'étais capable d'endurer la complication de la réalisation d'un film. C'est-à-dire que je pouvais en rire. Quand des choses terribles se produisaient, que le film s'écroulait, je riais tout simplement, je disais... Et quand j'étais plus jeune, je me serais dit, ah, c'est une catastrophe, c'est vraiment difficile, c'est épouvantable. Donc je pense que, bizarrement, être plus âgé m'a aidé à revenir au cinéma.
Mais diriez-vous que le cinéma est un art qui a particulièrement à voir avec le désir?
Mais je n'ai pas pratiqué d'autres arts. Je n'ai jamais été peintre ou sculpteur, donc il m'est difficile de comparer.
Vous avez écrit et vous vendez vos calculs rénaux, David.
Oui, bien sûr. Le cinéma a toujours été très érotique. Si vous étudiez les interactions de la condition humaine, vous devez traiter du sexe, de la sexualité, de l'érotisme. Et bien sûr, quand nous étions jeunes, et je parle des années 40 et 50, le lien principal avec l'érotisme, c'était le cinéma.
Quelle est la première image qui vous a fait fantasmer, la première image de cinéma ?
Les premières images, quand j'ai grandi, c'était Brigitte Bardot. Au Canada, à l'époque, à Toronto, on ne pouvait pas aller voir un film avec Brigitte Bardot si on avait moins de 18 ans. Moi, j'ai eu 13 ans, je suis allé à New York où mon oncle était enseignant. Et je suis allé sur la 42e rue, celle des cinémas. Et je n'ai vu que des films avec Brigitte Bardot. Donc en termes d'érotisme, elle était l'image pour moi de la sexualité au cinéma et de la beauté.
Dans le monde du futur que vous imaginez, David Cronenberg, le cinéma n'existe plus. L'art qui semble dominer tous les autres et qui attise tous les fantasmes, c'est celui qui consiste à réaliser en direct des opérations chirurgicales. Et émerge une idée énoncée par le personnage de Kristen Stewart, qui est celle que la chirurgie est le nouveau sexe. Qu'est-ce que vous voulez dire?
Well, the bodies.
Les corps et les esprits, parce que moi je ne sépare pas les deux. Les corps et les esprits de ces gens dans cet univers alternatif que je propose sont en train de changer. Et l'un des aspects de ce changement est que leur compréhension de la sexualité, leurs sentiments à l'égard de la sexualité se sont totalement transformés, au point où à un moment donné, le personnage joué par Viggo Mortensen dit « Je ne suis pas très doué pour l'ancien sexe », c'est-à-dire pour ce que nous considérons comme du sexe normal. Mais dans le film, les gens se mutilent. Par exemple, ils s'opèrent les uns les autres, même dans la rue. Et là, il y a une composante érotique. C'est donc pas ce qu'on appellerait normalement, c'est même pas du sadomaso, c'est une nouvelle connexion étrange de corps à corps, qui n'est pas ce que nous considérons comme du sexe, et ça mène pas à des bébés ou à la reproduction, mais il y a une composante érotique. Et ça, on en a parlé tout à l'heure de la façon dont nos corps pourraient changer, c'est une façon étrange dont les choses pourraient changer. Vous entendez même maintenant des gens qui sont obsédés par l'Internet, les écrans, les téléphones portables, et n'ont plus de relations sexuelles, je veux dire, vraiment pas. Toute leur sexualité passe par l'écran. Oui, tout.
Mais vous, et là c'est autant à l'homme qu'au cinéaste que je m'adresse, qu'est-ce qui vous excite?
Oh, everything, really.
Tout, vraiment.
On va continuer à se chauffer avec une chanson qui, je vous l'avoue, me met dans tous mes états. Portiched, Nom, en 1994, sur l'album Dummy. Vous êtes sur France Inter avec David Cronenberg. Vous écoutez Boomerang à Cannes.
Du Festival de Cannes.
Là, ça commence bien, le Festival de Cannes, hein, mademoiselle. Merci. Je suis au bord du scandale.
Il est presque aussi inquiétant que ne le laisse présager ses films. Grand, mince, le cheveu dense, blanc, coiffé en arrière, quelque part entre le psychanalyste et le médecin légiste, avec son regard au scalpel et son sourire bloc opératoire, difficile de savoir de quoi il est capable. Tout en jean et sweatshirt à capuche, cette tenue de Covid qu'il n'a pas lâché depuis 3 ans, me confie-t-il, le cinéaste David Cronenberg, invité de Boomerang ce matin et en compétition à Cannes, avec Les Crimes du futur en salle demain. Ce futur, tel que vous l'imaginez, il n'a rien à voir avec un monde ultra-moderne et hyper-connecté. C'est très intéressant. Au contraire, tout semble décati, usé, recyclé et renvoie constamment au passé. Le passé, qu'est-ce que ça représente pour vous ?
I really
J'ai vraiment l'impression qu'il n'y a pas cette chose-là, le passé. Il continue d'exister aux côtés du présent et même du futur. Je ressens vraiment l'intégration du passé et du présent. J'ai l'impression que le passé est une illusion. Il existe maintenant. Il n'existe pas dans le passé. C'est un sentiment étrange et plus je vieillis, plus cela devient une réalité.
Pour autant, dans quelle mesure direz-vous que ce film, tout particulièrement, est habité par les films que vous avez réalisés par le passé, justement ?
Je ne pense absolument pas à mes autres films quand je fais celui-ci. Je sais qu'il y aura des connexions parce que ça vient de ma sensibilité.
Ça veut dire que vous ne vous citez jamais ?
Je ne me cite pas. Je ne fais pas d'autoréférence. Même si je sais qu'il va y avoir des citations. C'est un équilibre étrange, mais quand je réalise un film, je suis tellement concentré sur la création de cet instant, avec cet acteur, avec cet éclairage, cette voix, ce costume. Je pense à rien d'autre. Et même lorsque j'ai écrit le film, j'étais comme dans un petit cocon. Je veux dire, c'était une création en cours. C'est comme si j'avais jamais fait d'autres films. Je vous assure, c'est vrai. Intellectuellement, bien sûr, je peux voir qu'il y a toutes ces connexions.
Vous savez pourquoi je vous pose la question ? C'est aussi parce qu'à travers l'histoire que vous nous racontez, vous interrogez la notion d'archive. Les deux artistes performeurs, incarnés par Léa Seydoux et Viggo Mortensen, dans le film, ont pour souhait de faire répertorier leurs œuvres en faisant don à un institut spécialisé. Et je me suis demandé, peut-être qu'une œuvre d'art, c'est quelque chose qui se transmet de génération en génération, avec le temps.
C'est comme documenter un meurtre, non ? Ou une catastrophe. Je pense qu'il y a un sentiment que certaines personnes qui font ce travail de documentation documentent en fait la fin du monde, ou peut-être la fin des humains en tant qu'êtres humains. Donc, quand ils documentent les performances de Saul Tenser, c'est pas seulement par divertissement, c'est pas comme si nous, on utilise notre portable pour enregistrer un concert de rock. C'est important, c'est quelque chose de spécial, d'apocalyptique, c'est peut-être la dernière chose qu'on n'enregistrera jamais. Donc il y a ce sentiment d'intensité, qu'il y a un tournant dans l'histoire de l'humanité.
Et qu'en est-il du cinéma, David Cronenberg ? Vous qui imaginez un monde où le cinéma n'existe plus, quel futur est-ce que vous lui voyez ?
Ce n'est plus ce que c'était autrefois. Et puis, c'est très banal à dire, mais je sens que c'est vrai. Je ne vais pas au cinéma. Je regarde des choses sur mon iPad, je regarde des choses à la maison. Et bien sûr, le phénomène Netflix a été énorme, immense. En plus, l'effet Netflix après la pandémie a été énorme. Et je pense que les cinémas seront... Ils ne vont pas disparaître complètement, mais ils ne seront pas très importants. Ça sera une niche pour les spécialistes. Ça sera comme les gens qui écoutent encore des disques en vinyle. Mais j'en avais fait une plaisanterie la dernière fois que j'étais à Venise. J'en parlais à Spike Lee en plaisantant. Je lui ai dit que je regardais Lawrence d'Arabie sur mon Apple Watch. Et je lui ai dit, écoute, il y a un millier de chameaux, je les vois tous, ils sont tous là. Mais c'était quand même sérieux parce que c'est plus intime, c'est un autre genre de cinéma. Ça change vraiment. C'est toujours du cinéma, mais ce n'est plus l'ancien cinéma. C'est comme l'ancien sexe. La chirurgie, c'est le nouveau cinéma.
Alors, ça change le sens que l'on donne à nos vies, parce que c'est là la fonction de l'art, c'est ce que vous nous dites dans ce film. Quel sens est-ce que le cinéma a donné à votre vie, à vous en tant que spectateur, mais aussi en tant que cinéaste ?
C'est un outil pour explorer la condition humaine. C'est comme ça, c'est ce que je ressens. Je pense que tout art est une exploration de la condition humaine, ou en d'autres termes, ce que c'est que d'être humain, et une documentation des changements dans ce que c'est que d'être humain, si c'est vraiment ce qui se passe. C'est pas exactement... Vous savez, je me sens philosophiquement, je suis fondamentalement un existentialiste. Vous savez, c'était très populaire dans les années 50, avec Jean-Paul Sartre, l'existentialisme, Heidegger. Je pense qu'il n'y a pas de sens à la vie. Mais nous avons le besoin de créer du sens. Et donc, nous utilisons l'art, parfois la religion, pour créer du sens. parce que nous semblons en avoir besoin pour exister. Pour moi, le cinéma est juste un outil de plus par lequel nous créons du sens pour nous-mêmes.
Là, je pense à cette phrase prononcée par Léa Seydoux dans le film « Nous sommes en train de détruire totalement nos enfants ». Cette phrase, comment vous l'entendez, vous ?
Ça détruit nos enfants du tout au tout. C'est pas simplement la pollution. Je pense en tant que père et grand-père, je crois vraiment en l'innocence des enfants et au fait qu'on leur enseigne des choses qui aboutissent à la guerre, au désastre, à la destruction, à la cruauté. Et je pense que c'est la façon dont la plupart des sociétés sont structurées désormais, structurées pour enseigner aux enfants à être un militant, à un militariste, à être un communautariste, à être territorial. Ça mène à des guerres, à la cruauté, et ça ne fait que monter. Et je pense que nous voyons sur les réseaux sociaux toute la bassesse et les choses épouvantables que les gens peuvent être. Ben, ils sont là, ils sont exhibés. Et c'est donc de cela qu'il s'agit dans cette réplique.
Au fond, pour vous, et ce sera ma dernière question, pourquoi sommes-nous là, David Cronenberg ?
Je pense qu'il n'y a aucune raison pour nous d'être ici. Aucune. Zéro.
Alors qu'est-ce qu'on fait ?
You enjoy the sunshine
when vous profitez du soleil quand il brille, vous profitez de vos enfants, vous profitez d'un bon repas. Je veux dire, je sens vraiment que c'est l'existentialiste en moi qui parle. Le sens de la vie, c'est la vie.
Merci infiniment, David, d'être venu faire un tour dans Boomerang. Et merci à votre interprète ce matin, l'organique et très corporel, Michel Zlotowski. Je rappelle que Les Crimes du Futur, avec Léa Seydoux, Viggo Mortensen et Kristen Stewart, notamment, sort demain au cinéma, qu'il est en lice pour la Palme d'Or et qu'il fascinera nombre de spectateurs. Tout de suite, les médias, Sonia De Villers et son Instant M, juste après ça.
Thank you.
Non, ne regarde pas dans les yeux. Je veux pas que tu vois. Que j'y vois que toi dans les deux, que je tiens plus très droit. Moi sans toi j'ai l'air un peu louche, mine de rien je tiens pas bien sûr mes touches.
Vertigo, Juliette Armanet avec Sébastien, c'est tellement beau. Il est 9h40 exactement sur France Inter.